Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine-Nar-Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en français chez Fayard en 1985 sous le titre Élisabeth d'Autriche. Cet ouvrage de l'historienne Brigitte Hamann est la traduction de sa biographie allemande Elisabeth Kaiserin Wider-Wilhelm. Il ne propose pas une nouvelle variation romanesque sur Sissi, mais une enquête historique de grande ampleur sur l'impératrice Élisabeth d'Autriche, reine de Hongrie, épouse de François-Joseph. Hamann mobilise une documentation considérable correspondance, journaux intimes, témoignages contemporains et nombreux poèmes d'Élisabeth, dont une part était alors peu connue du public. Son objectif est de soustraire la souveraine aux images sentimentales qui ont durablement fixé sa légende. Le livre restitue une femme instruite, indépendante, souvent malheureuse, dont les aspirations à la liberté se heurtent continuellement à la discipline de la cour des Habsbourg. La biographie examine donc simultanément une personnalité singulière et les contraintes politiques, familiales et symboliques d'une monarchie européenne du XIXe siècle. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, défaire le mythe de Sissi par le travail des sources. La contribution centrale de Brigitte Hamann consiste à déplacer le regard Élisabeth n'est plus d'abord l'héroïne gracieuse et mélancolique popularisée par la fiction, mais un sujet historique dont il faut reconstituer les choix, les contradictions et les silences. Cette démarche repose sur le recours systématique à des matériaux personnels et contemporains. Les lettres permettent de situer les relations d'Élisabeth avec son entourage dans des circonstances précises. Les journaux et souvenirs doivent être lus avec prudence, car ils reflètent aussi les intérêts et les limites de leurs auteurs. Les poèmes donnent accès, de façon indirecte et littérairement construite, à ces représentations d'elle-même et du monde. Hamann ne traite donc pas l'intimité comme une vérité immédiate, elle la replace dans les codes sociaux et politiques de son temps. Ce choix méthodologique explique la densité du livre. La légende est moins simplement réfutée qu'éprouvée contre les archives beauté, voyage, solitude et rébellion restent présents, mais ils cessent d'être des attributs décoratifs. Ils deviennent les éléments d'une existence soumise à une fonction dynastique. Pour le lecteur, l'ouvrage montre concrètement pourquoi une biographie solide ne se contente ni des récits postérieurs ni d'une psychologie rétrospective. Elle confronte des traces diverses, distingue les représentations des faits établissables et accepte les zones d'incertitude lorsqu'aucune source ne permet de les lever. Deuxièmement, la cour des Habsbourg comme mécanisme de contrainte, Hamann fait de l'étiquette impériale bien davantage qu'un décor de palais. La cour austro-hongroise apparaît comme une institution qui règle les apparitions publiques, la hiérarchie familiale, l'éducation des enfants, les relations sociales et la représentation du pouvoir. Dans ce cadre, le mariage d'Élisabeth avec François-Joseph ne peut être compris seulement comme une relation privée, il devient l'intégration précoce d'une jeune femme bavaroise à une monarchie, extrêmement codifiée. L'écart entre son tempérament, son besoin d'autonomie et les obligations de son rang structure une grande part de sa trajectoire. Hamann évite ainsi l'explication simpliste qui ferait de l'impératrice une victime passive ou, inversement, une rebelle entièrement souveraine de ses décisions. Ses départs, ses voyages et son refus de certaines conventions peuvent être lus comme des tentatives de préserver une marge de liberté. Ils ont aussi des conséquences sur ses liens familiaux et sur l'exercice attendu de sa fonction. La biographie souligne le coût humain de cette incompatibilité entre l'individu et l'institution, isolement, frustration, tension avec l'entourage et durcissement progressif du jugement porté sur la cour. Cette analyse donne une portée historique au cas d'Élisabeth. Elle montre comment une monarchie fondée sur le cérémonial et la continuité dynastique pouvait réduire l'espace d'action personnelle, y compris pour la femme qui en incarnait publiquement le prestige. Troisièmement, la Hongrie, espace politique et affectif privilégié d'Élisabeth. L'attachement d'Élisabeth à la Hongrie occupe une place essentielle dans le portrait établi par Hamann. Il ne se réduit pas à un goût pour un pays, ses paysages ou certaines relations personnelles. Dans une monarchie composée de peuples, de langues et de traditions politiques diverses, préférer la Hongrie avait inévitablement une signification publique. Élisabeth s'y sentait plus libre que dans l'univers viennois et s'intéressa réellement à sa langue ainsi qu'à sa culture. Hamann montre que cette proximité a contribué à façonner l'image d'une souveraine distincte du milieu de cour autrichien. Elle permet également de comprendre comment les sympathies personnelles d'une impératrice pouvaient rencontrer les enjeux de la monarchie austro-hongroise, particulièrement dans la période qui mène au compromis de 1867 et au couronnement hongrois du couple impérial. Il serait pourtant réducteur de faire d'Élisabeth une actrice politique indépendante au sens moderne. Son influence dépendait de sa position familiale, de ses réseaux et de la volonté de l'empereur. Elle s'exerçait dans un système où les décisions formelles ne lui appartenaient pas. L'intérêt du livre est précisément de maintenir cette double perspective. La Hongrie est à la fois une voie d'évasion intime face à Vienne et un lieu où ses préférences acquièrent une résonance dynastique. Hamann éclaire ainsi les liens complexes entre sensibilité personnelle, identité nationale et politique impériale. Quatrièmement, Corse. Équitation et voyage des pratiques de liberté sous surveillance, les activités physiques et les déplacements d'Elisabeth ne sont pas abordés comme de simples traits pittoresques. Son goût intense pour l'équitation, la marche, les séjours loin de Vienne et l'attention portée à son apparence composent, chez Hamann, un ensemble de pratiques qui aident à saisir son rapport au corps et à la liberté. L'exercice offre une échappée hors des rites de cour. Tandis que le voyage éloigne temporairement l'impératrice des relations contraintes et de l'exposition permanente attachée à son statut. Mais ces échappées ne suppriment pas la fonction impériale, elles sont observées, commentées et parfois interprétées comme des manquements au devoir de représentation. La tension est donc constante entre maîtrise de soi et regard public. L'accent mis sur le corps ne doit pas être isolé de cette condition sociale. Dans une monarchie qui valorise la figure de l'impératrice comme symbole, la beauté d'Elisabeth devient elle-même une composante de sa célébrité et une charge. Hamann évite de réduire ce phénomène à la seule vanité, elle le replace dans les normes de genre, de rang et de visibilité du XIXe siècle. L'équitation et les voyages révèlent aussi une capacité d'initiative réelle, quoique limitée par les ressources et les obligations de la cour. Ils permettent enfin de comprendre pourquoi la postérité a privilégié une image mobile et insaisissable d'Elisabeth, celle-ci fut produite à la fois par ses choix et par la fascination que ses choix exercèrent sur ses contemporains. En dernier lieu, les poèmes d'Elisabeth comme accès critique à une vie intérieure, l'un des traits distinctifs de cette biographie est l'importance accordée aux poèmes d'Elisabeth. Hamann les utilise non pour transformer l'impératrice en génie littéraire méconnu, mais pour enrichir l'étude de son imaginaire, de ses lectures et de sa manière de formuler son malaise. Leur présence corrige l'image d'une souveraine définie seulement par son apparence ou par les récits d'autrui. Elisabeth écrit, imite notamment des modèles littéraires admirés et compose des textes qui mettent en scène l'aspiration à l'indépendance, la désillusion, l'éloignement et le refus des contraintes. Ses écrits constituent des sources précieuses, mais leur interprétation demande une méthode, un poème peut exprimer une posture, employer des conventions ou amplifier une émotion. Il ne livre pas automatiquement un fait biographique. La force de l'approche de Hamann réside dans le croisement de cette voie poétique avec la correspondance et le contexte historique. Les vers deviennent alors des indices à examiner, non des confessions irréfutables. Cette attention au texte personnel donne au livre une profondeur particulière, elle fait voir comment Elisabeth a tenté de construire un espace intérieur dans une vie dominée par les rôles publics. Elle rappelle aussi que l'écriture peut être, pour une personnalité enfermée dans une position protocolaire, à la fois un refuge, un moyen de critique indirecte et une manière de se façonner une identité distincte de celle que la cour exige. En conclusion, Elisabeth d'Autriche s'adresse en priorité aux lecteurs qui souhaitent dépasser les adaptations romantiques consacrées à Sissi et comprendre l'impératrice dans son contexte réel. Il conviendra particulièrement aux amateurs de biographies historiques, d'histoire austro-hongroise et d'histoire culturelle du XIXe siècle, ainsi qu'à ceux qui s'intéressent aux rapports entre vie privée et fonction publique. L'ouvrage demande une attention soutenue son abondance documentaire. Ses nombreux personnages et les enjeux d'une monarchie composite ne visent pas la simplicité d'un récit romancé. En retour, il fournit des repères solides pour distinguer l'icône populaire de la personne historique. Son bénéfice intellectuel majeur est d'apprendre à lire une célébrité du passé à travers des sources contradictoires et situées. Les lettres, journaux et poèmes ne sont pas seulement des ornements biographiques. Ils permettent d'évaluer comment Elisabeth s'exprimait, comment son entourage la décrivait et comment sa légende s'est constituée. Le lecteur comprend également que son désir de mobilité et d'indépendance ne peut être séparé des règles de la cour, des obligations dynastiques et de la question hongroise, par rapport à de nombreux livres centrés sur le charme, la tragédie ou le folklore impérial. La singularité de Hamann tient à cette combinaison de précision archivistique et d'attention à la vie intérieure. Elle ne remplace pas un mythe flatteur par un contre-mythe, elle restitue une femme difficile à enfermer dans une image unique. C'est pourquoi cette biographie demeure une référence utile et exigeante sur Elisabeth. Si vous souhaitez soutenir Brigitte Hamann, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.